Bonjour à toutes et tous. Après avoir rodé l'Hexagone sur les deux derniers jours, retour dans les grands studios outre-Atlantique. Et oui, vous êtes bien dans la chronique 10 minutes avec sur les films et dessins animés de Noël. Je vous plante le décor. Nous sommes en 2005 quand sort sur grand écran le chapitre 1 de la saga Narnia qui prend naissance dans les œuvres de C.S. Lewis paru une cinquantaine d'années auparavant. D'ailleurs, c'est rentré dans le langage courant de nommer ce film seulement Narnia, mais son titre complet est bien Le Monde de Narnia, et le premier chapitre pour le cinéma est intitulé Le Lion, la Sorcière et l'Armoire Magique. C'est important de dire pour le cinéma, car dans l'ordre de l'œuvre littéraire, il n'apparaît qu'en seconde position après Le Neveu du Magicien. Pour vous parler un peu de son créateur de renom, de son vrai nom Clive Staple Lewis, il était écrivain et universitaire brillant, né à Belfast en 1898. Brillant pour sûr, car il était titulaire de la chaire de littérature médiévale et renaissance à l'université de Cambridge et membre honoraire de la chaire de littérature anglaise à l'université d'Oxford. C'est d'ailleurs dans cette même université qu'il rencontrera John Ronald Reuel Tolkien, lui aussi écrivain et créateur d'un certain empire du milieu, avec deux livres, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Les deux hommes étaient donc faits pour s'entendre. Pour revenir vers Narnia, il faut savoir qu'on a failli ne jamais le voir sur nos écrans, l'écrivain l'ayant refusé à cause des faibles moyens techniques permettant de donner vie à des créatures. Il disait même, je cite, « Les bêtes humanisées ne peuvent être montrées à l'écran sans être à la fois hideuses ou ridicules. Je souhaite que les idiots qui dirigent le monde du cinéma se rendent compte qu'il y a des histoires pour l'oreille seule. » Bon, après, il perd pas le nord, hein, car au cas où, il glisse dans son testament des droits cinématographiques que son beau-fils pourra utiliser pour faire les films que l'on connaît aujourd'hui. On parlait des créatures, quelle belle transition je trouve, avec l'anecdote qui arrive de la part du réalisateur lui-même, Andrew Adamson, qui a accordé une mini-interview à Total Film Magazine en admettant les énormes moyens prévus par la production pour la scène du combat final où plus de 800 personnes travaillaient dessus, dont de nombreux prothésistes. En même temps, quand on voit la scène tournée dans le sud de la Nouvelle-Zélande, on imagine les heures passées à maquiller tous les comédiens et comédiennes. D'autres anecdotes collent à la peau de ce film, notamment par la plus jeune actrice présente sur le plateau, Georgie Henley, qui interprète Lucy, la benjamine de la famille Pevensey. On commence par celle qui est la plus touchante, je trouve, quand la jeune Lucy découvre Narnia pour la première fois au fond de la grande armoire. Pour que la scène soit la plus réaliste possible et que les yeux de la petite fille brillent encore plus, le réalisateur a fait le pari de tourner en conditions réelles, c'est-à-dire sans montrer le décor à la comédienne auparavant. De ce fait, la jeune actrice découvrit réellement cet univers et on le ressent lors du visionnage. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez à nouveau la séquence et vous comprendrez. Autre fun fact à son sujet, malgré une scène où elle partage un thé avec son nouvel ami, Monsieur Tumnus, la jeune actrice déteste cette boisson. Mais il est facile de remplacer cette dernière par du chocolat chaud, on n'y voit que du feu. Et d'ailleurs, en parlant de Monsieur Tumnus, j'ai été choquée de voir que l'acteur qui l'incarne n'est autre que James McAvoy, à qui l'on doit des prestations remarquables dans Split, X-Men, Wanted ou encore Deadpool. Une petite dernière pour la route à son sujet, quand toute une équipe tourne avec des enfants, difficile de ne pas prononcer de gros mots, surtout quand les scènes sont refaites plusieurs fois. Alors pour encourager ses aînés, la jeune Lucy avait mis en place la fameuse boîte à gros mots, et c'est bien James McAvoy qui l'a le plus rempli. Blague à part, avant de s'écouter un extrait de l'œuvre musicale signée Harry Gregson-Williams, vous avez tous vu qu'Aslan, le lion iconique de la saga, est une image de synthèse car l'équipe se refusait d'engager un vrai lion. Mais pour mettre plus à l'aise les comédiens et rendre les scènes plus vraies, un comédien jouait bien le rôle du gros matou, vêtu d'un costume à son effigie, puis était retouché par ordinateur. Il aura fallu 10 heures en tout pour animer l'emblématique Aslan sur le chapitre 1. Des anecdotes, il y en a d'autres, surtout que nous avons parlé uniquement aujourd'hui du film numéro 1, il y en a 3 en tout, peut-être même un quatrième serait en cours, mais maintenant place à la musique avec ce chef-d'œuvre que l'on peut découvrir durant la première bataille de Beruna. Si vous avez vu Le Monde de Narnia, Le Lion, la Sorcière et l'Armoire Magique, cette musique vous a sûrement fait remonter beaucoup de souvenirs. La suite de cet épisode va vous plaire si vous êtes adepte des films d'animation inspirés de faits réels, car je vais vous parler d'un de mes grands classiques à moi, c'est Anastasia. Pour vous placer au cœur de l'histoire, parlons de la vraie, celle des Romanov. Le personnage principal de l'histoire est Anastasia Nikolaevna, la quatrième fille du tsar Nicolas II de Russie et de son épouse, l'impératrice Alexandra Fyodorovna. Le sort de la famille royale tourne en 1917 quand le peuple russe se révolte. Nicolas II abdique et est assigné à résidence avec toute sa famille, mais le malheur s'abat dans la nuit du 16 au 17 juillet 1917 quand la famille entière est assassinée par les bolcheviks dans la villa Ipatiev, menant à une grande guerre civile qui durera 3 ans et dont un certain Joseph Staline sortira pour prendre le pouvoir. L'histoire à cet instant devient très similaire entre fiction et réalité, car dans la création du studio Fox, le début du film commence par une rumeur étrange, la grande duchesse Anastasia serait encore en vie. Et dans les faits, c'est également ce que la presse russe relate à tout va. Les journaux parlent même des diamants incrustés dans la robe de la princesse qui auraient fait ricocher les balles. On continue les similitudes avec cette scène où la grand-mère d'Anastasia rencontre plusieurs jeunes femmes, toutes prétendant être sa véritable petite fille. En 1917 en Russie, c'est également ce qui se passe. Une dame en particulier va amplifier la rumeur. Elle s'appelle Anna Anderson, une jeune amnésique que beaucoup de proches de la famille royale confondent avec Anastasia. Mais comme un test ADN le prouvera, Anna est bien Anna et non Anastasia. C'est rigolo car un prince européen était persuadé qu'il s'agissait bien de la dernière des Romanov. Ce prince donnera l'inspiration au personnage Dimitri. Revenons à notre dessin animé, déjà merci de bien intégrer que même si aujourd'hui il appartient à Disney et qu'Anya est donc une princesse comme Ariel, Réponse ou Cendrillon, ce chef-d'œuvre sort tout droit des studios de la 20th Century Fox, plus précisément de Fox Animation Studio. Avec cette branche, la firme souhaite justement concurrencer les créateurs de Mickey, mais c'est un échec, les résultats au box-office étant très faibles. Mais ils ne baissent pas les bras et après avoir racheté Blue Sky, ils sortent la saga qui les fera renaître, L'Âge de Glace. Mais gardons-en un peu pour la fin de la semaine, voulez-vous ? Car oui, Sid et tous ses potes font bien partie de ma sélection. De retour sur la plus célèbre des grandes duchesses russes, dont la voix française n'est autre que Céline Montsara. Alors dit comme ça, hein, ça ne vous donne pas trop d'indices, mais écoutez.
Tu viens juste de me dire que je devrais jamais te faire confiance. Alors maintenant, tu la fermes et t'écoutes.
Mais quand on vient de passer 6 ans à jouer les mères de famille, c'est vachement difficile de trouver un boulot qui est pas payé au lance-pierre. Ça y est, t'as enregistré, chérie? Ou bien alors je vais un petit peu trop vite pour toi?
C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate.
Nous vouloir...
Dory, arrête.
Souper.
Qu'est-ce que tu fais?
Moi, je suis une schtroumpfette.
Une schtroumpfette?
Vous n'en avez jamais vu?
Non.
Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu tournes autour de moi? Est-ce que tu aurais été un vautour dans une autre vie?
Oh, je te demande pardon.
Ah, de suite, vous voyez bien de qui je parle, la fameuse doublure française de Julia Roberts, Dory dans Le Monde de Nemo ou encore La Schtroumpfette. Côté chanson, c'est Katia Marcosi qui prête sa voix à notre personnage principal, mais une autre version est enregistrée pour la promo du film. Oui, Hélène Ségara sera bien aussi de la partie avec Loin du froid de décembre. Concernant la musique, justement, un fun fact et pas des moindres, je trouve, David Newman, le compositeur de la bande originale, n'est autre que le fils d'Alfred Newman, celui qui a écrit la musique pour le film Anastasia en 1956. Chez les Newman, les Romanov, ça leur parle. Enfin, le film Anastasia a une ressemblance assez frappante avec un film qui est l'un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma, Titanic. On peut effectivement voir une grande ressemblance entre ces deux films avec la scène de l'escalier et celle du bateau, sachant qu'Anastasia est sortie en 1997 comme Titanic. Allez, une petite dernière pour la route, en ce qui concerne le personnage de Rasputin, un être déroutant dans le dessin animé qui en veut terriblement aux Romanov au point de vouloir tuer la jeune héritière. Ça, c'est pour la fiction, et dans la réalité, déjà, Rasputin a bel et bien existé, alors moi, déjà, je suis choquée, mais en plus, il était l'un des confidents les plus proches d'Alexandra, la mère d'Anastasia. Je pourrais faire un épisode uniquement sur ce personnage, tellement il y en a à dire. Mais bon, on est aussi là pour écouter de la musique, donc je vais vous proposer de m'arrêter là, de vous proposer pour les oreilles la rumeur de Saint-Pétersbourg qui ouvre le film, et je vous dis à demain pour un nouveau décryptage de films et dessins animés avec au programme Rasta Rocket et La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté. À demain.
Saint
Saint-Pétersbourg, c'est l'enfer.
Saint-Pétersbourg s'ennuie.
Mon caleçon dès qu'un glaçon dès que je sors du lit.
Depuis la révolution, la vie n'a plus de couleur. Heureusement, y a les ragots pour nous réchauffer bien. Hey, qu'est-ce qu'on rit? Qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg? Qu'est-ce qu'on rit? Quelle est la rumeur du jour?
Même si pour le tsar c'est fini, paraît qu'une des filles est en vie.
Ah. La princesse Anastasia.
C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est une rumeur, une légende, c'est un mystère. On se murmure de bouche à oreille sur les boulevards. C'est une rumeur qui pourrait changer l'histoire.
On dit que sa royale grand-maman offre une royale somme.
Si on lui rend la princesse impériale.
Vlad ?
Dimitri, je m'en suis occupé.
Un rouble pour ce portrait. Un Romanov, mon frère.
Les pyjamas du soupaf, tu feras une affaire.
J'ai trouvé ça au palais, et c'est pas de la peau de lapin. On rentrera dans nos frais, si ça lui appartient.